Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Le Cénacolo a été fondé en 1983 en Italie, près de Turin, par une religieuse sœur Elvira, en réponse au mal-être de nombreux jeunes perdus dans le monde des addictions et surtout marginalisés. Le Cénacolo est une école de vie qui accueille des hommes et des femmes. Aujourd'hui, dans cette émission des clés pour grandir, je rappelle que ce rendez-vous hebdomadaire s'adresse à tous les parents qui ont des adolescents ou de jeunes adultes encore à la maison. Alors si vous êtes en difficulté, eh bien je vous propose cette semaine et les semaines qui vont suivre de découvrir aussi le témoignage de ces hommes et de ces femmes. Et en l'occurrence aujourd'hui, je vous propose d'écouter aussi ce beau parcours aujourd'hui de Valentina. Bonjour Valentina.
Bonjour.
Alors vous êtes aujourd'hui une jeune femme de 30 ans. Vous êtes tombée. Et vous vous relevez et vous êtes dans cette communauté que j'ai présentée en quelques mots, fondée par Sœur Elvira, la communauté du Cénacolo depuis 5 ans. On vous écoute dans votre cheminement après être tombée. Vous êtes aujourd'hui une femme de 30 ans qui se relève. Mm-hmm. Ouais. Et merci.
Merci. Et en fait, oui, je suis rentrée en communauté principalement parce que j'ai eu des problèmes de drogue. D'addiction à la drogue, mais ça n'était que ça en fait, ça n'était pas que ça. Je viens d'une famille où j'ai dit, c'est là que j'ai commencé à avoir de problèmes à niveau relationnel, je dirais. Parce que mon papa il était alcoolique, ma maman elle avait de gros problèmes de dépression, de problèmes de nourriture, de boulimie, et ça sont des choses qui m'ont bousculé quand j'étais enfant. J'ai toujours cherché de la sécurité dans les figures de mes parents, mais je ne l'ai jamais trouvée. J'aimais bien ma maman, mais dans l'autre côté, elle était une femme assez blessée, assez triste. Elle avait de gros problèmes à niveau de figure de femme, en fait. Et aussi, moi, je ne parlais pas du tout avec mon papa parce qu'il était toujours enfermé. Et soit dans le travail, soit dans l'alcool. J'ai deux frères qui sont plus grands que moi. Je suis la petite dernière. Et avec eux, avec le premier, j'étais très loin parce qu'il a 19 ans plus que moi. Et avec le deuxième, j'avais une relation très fusionnelle. J'étais dépendante à niveau affectif de lui parce que c'est lui qui s'occupait de moi quand j'étais petite. Et c'est quelque chose qui m'a blessée dans mes relations du futur parce que je suis grandie comme une fille très sensible, très fermée et toujours à la recherche d'une figure qui me donnait de la sécurité en fait.
Au fond, vous recherchez cette figure paternelle.
C'est ça. C'est ça. J'ai toujours cherché quelqu'un qui comme un père, m'a donné de la sécurité en fait. Oui. Et c'est inutile de dire que je ne l'ai jamais trouvé, en fait. Ça a été chez moi que je devais la recevoir. Il y a eu de moments dans mon adolescence où ma maman, surtout, s'est préoccupée de moi, de la façon dans laquelle j'étais en train de me perdre. Dans mes addictions, au début, c'était un peu l'alcool quand j'avais 12 ans. Et en grandissant, c'était petit à petit, j'ai fait un peu de bêtises avec des garçons. Après, j'ai connu les drogues légères. Et c'est là que ma maman a vu mon déséquilibre et a commencé à penser de m'amener à voir un psychiatre. Et là aussi, pour moi, c'était un moment où j'ai cherché quelqu'un qui m'ait donné des réponses sur moi-même, sur qui j'étais. J'ai cherché quelqu'un qui m'aidait à aller un peu dans la profondeur de qui j'étais. Ce n'était pas quelque chose qui... Ce n'était pas la chose de laquelle j'avais besoin, mais j'ai dit toujours que c'est la chose qui m'a sauvé la vie à ce moment-là. Le fait d'être suivi par un professionnel de santé, en fait, m'a sauvé la vie, m'a empêché de mourir, quoi. Ça a été ça un peu.
C'était je dirais, le début d'un sauveur. C'était pas le grand sauveur, mais c'était le début d'un sauveur pour vous, dans vos chemins un peu de perdition. Oui. Est-ce que quand on parle de perdition, on pense à toutes ces addictions que vous avez nommées, que ce soit la cigarette, l'alcool, les drogues légères, et puis des drogues qui vont devenir de plus en plus fortes, et des dépendances peut-être dans vos relations aussi avec les garçons. Alors, on s'en sort comment ? On s'en sort avec un psychiatre et un bon suivi, avec un traitement aussi médicamenteux. Comment vous êtes sorti un peu de, je dirais, de toutes ces... Ce sont des blessures de la vie, au fond.
Mais là, je crois que j'ai eu besoin vraiment de toucher le fond, quoi. Quand je suis arrivée vraiment au fond du fond de moi-même, c'est là que j'ai pu accepter l'aide. Parce qu'avant, j'arrivais plus ou moins à m'en sortir, j'arrivais plus ou moins à avoir un travail. J'ai eu besoin d'arriver, d'être à la rue. J'ai eu besoin d'arriver là. Ouais. Et c'est à ce point-là que j'avais une amie à côté de moi qui justement s'est bien rendu compte que je n'étais pas bien, qu'à ce moment-là j'étais dans les drogues dures et tout ça, et m'a mis devant la vérité de moi-même. Et c'est là qu'elle a parlé avec mes frères, avec mon papa, et lui a expliqué vraiment qu'est-ce que c'était ma situation. Parce qu'avant justement, il ne la voyait pas. D'un côté, je crois
qu'il... Alors, il ne la voyait pas ou il ne voulait pas la voir. Et là, je pense, Valentina, permettez-moi, à tous les parents qui vous écoutent dans cette émission, qui est une émission aussi pour tous les parents qui ont des adolescents au collège, au lycée, ou jeunes étudiants, et sont peut-être, je dirais, avec les yeux fermés, les oreilles qui n'entendent pas, ou ne pouvant voir, une forme de déni. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à tous ces parents, Valentina?
Je crois que c'était un mélange de deux, en fait. Il y avait soit moi qui je n'étais pas capable de sortir ce que je ressentais, je n'étais pas capable de parler de moi-même, de dire, d'avoir aussi l'humilité à ce moment-là. J'étais beaucoup dans l'orgueil de leur faire voir que j'arrivais à m'en sortir, voilà, que j'arrivais à faire quelque chose dans ma vie. Et dall'altro côté, je crois aussi qu'il ne pouvait pas accepter que leur sœur ou leur enfant était arrivé à ce point-là. Ouais.
Donc, une part aussi des parents de ne pas voir, ne voulant pas voir ou ne pouvant peut-être accepter aussi la situation et la dégradation aussi de l'état de leur fille.
Oui, je crois que c'était trop difficile pour mon papa à ce moment-là, parce que je venais de perdre ma maman. Je crois que c'était trop difficile pour lui d'affronter la souffrance de me voir tomber si mal, en fait.
Et de perdre votre maman à l'âge de 21 ans, ça a été aussi un tournant dans cette période un peu sombre, je dirais, où vous tombez, quoi.
Oui.
Où vous écroulez.
Oui, là, je crois que ça a été très difficile pour moi d'un côté, parce que d'un côté, quand elle est morte, elle sortait d'une longue maladie. En fait, elle a eu un cancer pendant 7 ans. Et du coup, d'un côté, j'étais soulagée, parce qu'à l'époque, c'était moi que je m'occupais d'elle. Parce que j'étais restée à la maison avec mon papa, on était les trois ensemble, du coup c'était moi à m'occuper d'elle. Dans l'autre côté, c'était une douleur trop profonde pour moi, je n'arrivais pas à le gérer. Et du coup, dans un très court temps, j'ai quitté la maison parce que je ne pouvais pas vivre avec ma douleur, avec la douleur de mon papa, je n'arrivais pas. Et du coup, j'ai quitté la maison et j'ai passé à ce moment-là 2 ans vraiment, c'était l'enfer sur terre, je dirais. Je m'échappais de toute la souffrance que j'avais accumulée pendant ma vie, de la souffrance de la mort de ma maman, de la honte d'avoir été devenue ce que j'étais devenue, en fait. Et j'ai passé du coup 2 ans en essayant de m'échapper de tout ça, en fait. J'ai complètement coupé le lien avec ma famille à ce point-là. J'ai passé 2 ans dans lesquels ils ne savaient même pas si j'étais morte ou vivante. J'étais complètement seule, quoi.
Ouais. Vous vous rappelez encore de ces 2 ans d'enfer, parce que vous parlez d'enfer, de ces 2 ans. Vous pouvez... très vite décrire cet enfer.
Oui, en fait, là, c'est très concret, quoi. Il n'y a que la drogue dans la vie. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas... Même si j'avais la... au fond de moi, je voulais faire quelque chose d'autre, mais je n'arrivais plus à ce point-là. Il n'y avait que la drogue, il y avait seulement la pensée à chaque jour de comment trouver l'argent pour acheter de la drogue, arriver à la soirée et le jour après recommencer du début. J'ai passé 2 mois où je n'avais pas de maison, j'étais à la rue. Après, bon, j'arrivais plus ou moins à m'en sortir, j'avais quelques amis qu'ils pouvaient me loger chez eux, mais quand même, j'étais esclave, quoi. Je n'étais pas libre, j'étais dans la tristesse.
Et puis la dépendance totale du produit, au fond.
Oui, hein? Oui,
Le produit prend le dessus sur tout le reste.
Oui, c'est ça. On est complètement accro à quelques grammes d'une poudre blanche, c'est rien, quoi.
Elle prend le dessus.
Oui, hein? Oui, oui.
Sur tout le reste.
Oui, oui.
Même les personnes que l'on peut aimer.
Oui, oui, oui. Je n'étais plus capable de m'aimer, en fait, parce que mon cœur était complètement fermé, était complètement verrouillé, quoi. Je vivais seulement de la drogue et de ma souffrance. Il n'y avait rien d'autre.
Alors, vous parlez de ce cœur verrouillé. Comment il a été déverrouillé, hein, puisqu'aujourd'hui, après 5 ans de communauté du Cénacolo, vous êtes au micro pour témoigner de cet enfer. C'est un retour, je dirais, vers un début de vie.
Oui,
alors,
ça.
En quelques minutes, très vite.
Oui. Et là, c'est fort parce que c'est un chemin, en fait. Je remercie la communauté parce que elle m'a donné les instruments pour pouvoir commencer à me comprendre, à me connaître, à apprendre à parler de ce que je vis à l'intérieur de moi, de mon âme, de mon profond. Pour moi, c'était surtout ça. Et la communauté, en fait, nous donne le bon instrument pour le faire, le moment d'amitié, de partage, la vie communautaire simple, le travail aussi. Et surtout, ça a été la présence de Jésus. Pour moi, c'était vraiment de passer des heures de prière devant l'Eucharistie, d'apprendre à prier, comme je disais, Jésus, apprendre à prier la Vierge. Je suis rentrée en communauté en Italie, en fait, et après 2 ans, j'ai été transférée ici à Lourdes. Et pour moi, c'était vraiment une clé. Dans la figure de Marie, j'ai trouvé une clé de tendresse qui m'a permis petit à petit de rentrer en point de cœur, disons, dans la profondeur de mon âme. Ouais. Et maintenant, oui, c'est beau parce que je peux recommencer à avoir de rêves, de désirs pour ma vie. Je me sens revêtue de la miséricorde de Dieu, en fait.
Est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous êtes réconciliée avec la femme que vous êtes aujourd'hui, une femme de 30 ans?
Oui.
Parce que vous parlez de cette image aussi de la Vierge Marie,
oui,
qui est une mère, qui est une femme, à la fois dans sa douceur et dans sa force.
Oui.
Voilà.
Oui, justement, je crois que c'était les derniers 6 mois, un an, je dirais, de mon chemin où j'ai pu faire la paix avec mon côté de femme qui sait aimer, en fait. Je suis en train d'apprendre vraiment à aimer. Et c'est très beau, en fait. J'ai découvert qu'à l'intérieur de moi, il y a encore l'envie d'aimer, il y a encore la tendresse, il y a une certaine maternité, non? Maintenant, quand je vois les filles, les jeunes filles qu'elles arrivent en communauté, qu'elles sont détruites comme j'étais avant, il y a une volonté d'être mère, d'être une grande sœur pour elles, finalement. Ouais.
Eh bien, merci infiniment. Cette émission est courte, mais vous avez su donc garder aussi ce temps pour donner, je dirais, un court témoignage de votre expérience qui vous conduit encore aujourd'hui donc près de Lourdes dans cette communauté du Cénacolo. Donc, si des parents sont en difficulté, ne voient plus trop le bout du chemin, ils sont peut-être dépassés par les événements et la tourmente. Donc, chers parents, n'hésitez pas à prendre contact avec ces maisons aussi qui sont en France, en particulier pour les jeunes filles, donc près de Lourdes. Merci Valentina.
Merci à vous.
Et peut-être à très bientôt sur les ondes de nos radios chrétiennes.
Merci à vous.
La semaine prochaine, dans cette même émission, je vous propose de découvrir un autre témoignage d'une autre jeune femme qui a aussi, Valentina, le même âge que vous. Elle se prénomme Mathilde. Voilà. Merci.
Merci à vous. Au revoir.